bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le rôle de Matignon en question dans l'affaire dite Benalla. Matignon confirme avoir transmis des informations au parquet de Paris au sujet de l'enregistrement révélé par Mediapart. Cela aurait mené à la tentative de perquisition dans cette affaire Benalla. Nous y reviendrons. Dans cette édition, vous comprendrez aussi pourquoi la Chine n'est pas prête pour le moment à investir massivement dans le ferroviaire en France. Paris et Berlin ont pourtant évoqué leurs craintes après le rejet par l'Union européenne de la fusion entre Alstom et Siemens. Et puis pourquoi la France est-elle intervenue militairement ces derniers jours au Tchad? Une colonne venue de Libye menaçait la stabilité dans la région, nous y reviendrons. Pas un jour ne passe sans une nouvelle information sur cette affaire dite Benalla. Après la diffusion hier par Mediapart d'un nouvel enregistrement à propos d'une discussion privée entre l'ancien chargé de mission à l'Elysée et Vincent Crase, tous les deux mis en examen pour des violences du 1er mai dernier, après la diffusion donc, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour atteinte à la vie privée et possession d'appareils d'enregistrement illicites. Jusque-là, rien de neuf ce matin, mais le parquet aurait en fait été alerté par Matignon directement. Le cabinet du Premier ministre a visiblement eu des doutes sur une possible implication de la chef de la sécurité d'Édouard Philippe et sur son mari qui est un militaire, un proche d'Alexandre Benalla. D'où la saisie Emmanuel Leclerc de la brigade criminelle du 36.
On comprend mieux désormais pourquoi c'était une affaire réservée dans le langage policier, une affaire très sensible, et pourquoi c'est la brigade criminelle du 36 qui a récupéré cette enquête qui ciblait finalement peut-être moins Mediapart que ce couple proche d'Alexandre Benalla. L'épouse, commissaire divisionnaire et surtout chef de la sécurité du Premier ministre, lui, militaire, déjà suspecté d'être au cœur d'un contrat de sécurité privé avec un oligarque russe, selon nos confrères de Libération et de Valeurs Actuelles, contrat dans lequel Alexandre Benalla serait impliqué alors que ça se passait à l'époque où il était en poste à l'Elysée. Conflit d'intérêts ou espionnage, mais pour le compte de qui ? Matignon a affirmé hier avoir été prévenu de rumeurs sur la chef de sa sécurité et son mari par des questions posée par des journalistes et d'en avoir avisé aussitôt le parquet de Paris en précisant que la commissaire divisionnaire a formellement démenti être à l'origine de cet enregistrement diffusé en partie par Mediapart.
Et pendant que le sommet de l'État semble embarrassé par cette affaire, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale perd l'un des siens. Le député Mathieu Orphelin annonce son départ du groupe La République En Marche. Départ que ce proche de Nicolas Hulot justifie par le manque d'avancée en termes d'écologie et de justice sociale. Sixième débat en perspective pour Emmanuel Macron. Ce jeudi, il sera en Bourgogne et le président cible cette fois les jeunes. Il doit discuter en Saône-et-Loire à Étang-sur-Arroux de formation et d'avenir professionnel avec un millier de jeunes âgés de 15 à 25 ans. Un Tour de France qui ne plaît pas à l'opposition, qui l'accuse de faire une campagne électorale déguisée. Chez le parti Les Républicains, le député Éric Woerth regrette surtout que pendant ce temps, rien n'avance ou presque.
Le gouvernement, le président de la République, se transforme en animateur de grands débats. Il sera bientôt animateur de télévision. Et la France, elle a besoin d'être gouvernée, elle a besoin de décisions. Enfin, les autres pays ne nous attendent pas. Vous croyez que les Chinois, vous croyez que les Américains, vous croyez que les Européens passent leur temps à débattre? C'est un président de la République, c'est pas un prof de Sciences Po, c'est pas un grand oral de l'École nationale d'administration. Donc, briller dans un grand débat, accaparer les médias, me semble assez décalé par rapport à la nécessité de réformer notre pays. Mais le gouvernement, en ce moment, il est en vacances. Il est en vacances, on est en plein mois de février, il n'y a pas un ministre qui accouche de quelque chose. Et chaque fois qu'un sujet sérieux arrive devant la scène, on nous explique qu'il y a un grand débat et qu'il faut en discuter au moment du grand débat. C'est une manière de rejeter toujours à plus loin les décisions qu'on doit prendre. Et honnêtement, les décisions sur les réformes, elles sont devant nous. Et les décisions difficiles à prendre pour essayer de réduire la dépense publique, elles sont devant nous.
Le député Éric Woerth avec Rosalie Lafarge. De réforme, il en est question après le rejet par la Commission européenne du mariage entre Alstom et Siemens. La France et l'Allemagne s'insurgent et disent vouloir renégocier les règles de la concurrence dans l'Union européenne. C'est une faute économique et politique, estime ainsi le porte-parole français Benjamin Griveaux. Le gouvernement craint la possible arrivée chinoise sur le marché ferroviaire en Europe. Mais il n'y a aujourd'hui pas de quoi s'alarmer. Voilà ce que dit Marc Ivaldi. L'économiste était hier soir l'invité du journal de 22h de Stanislas Vazak.
Les réseaux ferroviaires en Europe sont très fragmentés. Ils utilisent des technologies très très différentes. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu et il faut que les Chinois investissent dans beaucoup de technologies pour pouvoir vraiment rentrer. Vous prenez un TGV, c'est vrai que ça s'appelle TGV, mais un TGV chinois, vous le mettez en France sur les rails d'un TGV français, ben il ne marche pas parce qu'il faut des logiciels, il faut des technologies de signaux qu'ils n'ont pas pour le moment.
Est-ce qu'il y a encore une supériorité technologique européenne dans le rail face aux constructeurs chinois ?
Pour le moment, elle est encore très forte. C'est ça qui est important, à mon avis. Les politiques européennes devraient se consacrer là-dessus. Développer la recherche, l'innovation dans ces technologies, continuer à le faire, rendre le réseau européen encore plus interopérable de façon à pouvoir standardiser beaucoup plus.
Le groupe français Alstom, en tout cas, dit maintenant vouloir repartir de l'avant. Il écarte ainsi toute renégociation de l'accord avec l'allemand Siemens. Des avions de combat français ont frappé hier le nord-est du Tchad. Ils ont visé une colonne de pick-up lourdement armée venue de Libye, contre laquelle français et tchadiens étaient déjà intervenus le week-end dernier. Cette incursion française menaçait la stabilité dans le pays, Nathalie Hernandez.
Au départ, il s'agit de donner un coup de main aux Tchadiens en vertu de la relation qui unit les deux pays. Une colonne armée d'une cinquantaine de pick-up venant de Libye vient d'entrer ce 1er février au nord-est du pays et l'armée d'Idriss Déby, pourtant considérée comme une des plus solides, n'arrive pas à faire rebrousser chemin aux rebelles. Deux avions de chasse français vont d'abord ce week-end les intimider en survolant le convoi à basse altitude, puis quelques heures plus tard procéder à deux frappes. Mais ce sera insuffisant. Profitant alors d'une relève d'équipage, la France met à disposition du Tchad 6 appareils. Hier avant-hier, ce sont donc 3 patrouilles aériennes françaises, appuyées par un drone Reaper, qui vont revenir bombarder la colonne. Une vingtaine de véhicules seront mis hors de combat. Mais la situation reste préoccupante. Matignon, comme le prévoit la Constitution, a alerté par écrit les députés de cette intervention. Et le Quai d'Orsay a de nouveau recommandé aux ressortissants français de ne pas se rendre dans cette zone. D'autant plus qu'on ignore pour l'instant, ce qu'a fait la trentaine de véhicules restants.
Des précisions signées Nathalie Hernandez à propos de cette incursion libyenne combattue par la France au Tchad. Et revoilà Theresa May à Bruxelles. La première ministre doit rencontrer aujourd'hui le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour, espère-t-elle, renégocier l'accord sur le Brexit. Une clause de sauvegarde concernant l'Irlande pose pour l'instant problème au Royaume-Uni. Cette clause doit éviter le retour d'une frontière physique en Irlande. Preuve de la tension ambiante, le président du Conseil européen Donald Tusk s'en est pris hier aux promoteurs du Brexit, s'interrogeant sur la place spéciale en enfer. Ce sont ces mots, la place qui leur serait réservée. Le gouvernement espagnol vient de rappeler certaines municipalités à leurs obligations, mais il leur demande de supprimer tous les noms de rues, toutes les places ou les monuments à la gloire du franquisme en Espagne. Une loi datant de 2007 les oblige déjà, mais 656 communes espagnoles ne l'appliquent pas correctement, Mathieu de Taillac.
Difficile de rater la Calle Generalissimo, la rue du Généralissime. Elle traverse tout le centre-ville de Socuellamos, une ville de 13 000 habitants à 200 km au sud-est de Madrid. À Villarta de San Juan, 2800 habitants, se trouve une rue du 18 juillet, comme le 18 juillet 1936, date du coup d'État contre la République, ou, comme le disaient les franquistes, du soulèvement. Dans la grande et historique ville de Salamanque, c'est une place des caídos, ceux qui sont tombés pour Dieu et pour l'Espagne, autrement dit, les victimes du camp national. Cela fait 12 ans que ces noms auraient dû légalement disparaître, et pourtant subsistent 1171 rues et places mal nommées que les maires ont laissées, rarement par nostalgie franquiste, parfois par paresse, souvent par peur de gêner une partie de leurs habitants sur un sujet qui continue de diviser profondément les Espagnols. Il ne faut pas, dit-on à droite, rouvrir les blessures du passé. Même si, répond-on à gauche, ces plaies n'ont jamais été refermées quand des milliers de victimes sont encore enfouies dans les fosses communes dont les familles ignorent l'emplacement. Une lettre a été envoyée à des centaines de mairies pour qu'elles appliquent enfin la loi et cessent d'honorer les vainqueurs de la guerre civile et les dignitaires de la dictature 44 ans après la mort de Franco.
Une réunion internationale s'ouvre aujourd'hui à Montevideo en Uruguay. Européens et latino-américains veulent trouver une issue négociée à la crise au Venezuela. Sur place, le bras de fer entre le président Nicolas Maduro et le chef du Parlement Juan Guaido. Ce bras de fer se concentre maintenant sur l'arrivée de l'aide humanitaire dans le pays. En France, la pluie se décale vers l'est ce matin, laissant quelques rayons de soleil sur l'ouest de la France avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'Atlantique. Près de la Méditerranée, le temps s'annonce plus clément. Il faut compter 5 degrés ce matin à Strasbourg et Lyon, 8 à Paris, Lille et Nantes, 9 degrés à Bordeaux, 12 à Perpignan.